Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Tendez bien l'oreille, car c'est un rendez-vous passionnant que nous vous proposons. Avec notre brigade, nous allons nous projeter sur le futur et les évolutions au sein de l'armée française. À quoi pourraient ressembler nos soldats et leurs équipements? C'est l'une des questions auxquelles va nous aider à répondre Julien Fautra. Bonjour Julien.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nous vous suivons au cœur de l'armée française, au sein du camp de Coëtquidan, et dans le Morbihan bien entendu, où des élèves officiers testent en ce moment les tout premiers prototypes de robots.
Eh bien je vais déjà vous présenter Spots, on dirait un grand chien élancé, sauf que lui est équipé de caméras de tous les côtés, il a quatre pattes. Pourquoi c'est intéressant qu'il ait quatre pattes? Parce que dans du combat en zone urbaine, ça permet de passer beaucoup d'obstacles, escalader un tas de gravats, monter un escalier, c'est-à-dire que c'est ce chien articulé qui va entrer dans un bâtiment où potentiellement il y a un ennemi qui va prendre ce risque à la place d'un homme ou d'une femme.
Vous voyez ici, je le fais dépasser là et profiter de ce joystick ici pour observer. Et je peux donc le calibrer ici pour monter les escaliers. Donc ça va être très pratique pour accéder à des étages, une zone où on n'est pas sûr. Et ça sera beaucoup plus sécurisé pour nous d'envoyer la machine et que la machine se fasse détruire plutôt qu'on envoie quelqu'un et que cette personne soit exposée au feu.
Les sous-lieutenants Clément et Arnaud, élèves de l'école militaire interarmes, ont ce qui ressemble à une manette dans les mains. C'est très intuitif pour qui a joué aux jeux vidéo, avec un écran au milieu qui renvoie en temps réel les images filmées par ce robot.
Et il a une caméra qui permet, en rentrant dans une pièce, de cartographier la pièce et de nous la représenter avec tous les aspects de la pièce, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et il peut détecter la présence de personnel dans une pièce, donc ça peut être très utile en combat urbain, avant de rentrer dans un bâtiment, de pouvoir déceler présence ennemie dans un bâtiment avant de pouvoir y aller.
Les industriels, les ingénieurs repèrent alors les pistes d'amélioration.
Si je lâche la manette, il n'y a plus aucune commande qui passe.
Et les élèves, futurs chefs de l'armée française, s'imprègnent du potentiel de la robotique, eux qui connaîtront sûrement ces évolutions. Le lieutenant-colonel Luzzetti est le commandant de l'école militaire interarmes.
Le fait technologique est une réalité, et ces jeunes officiers qui sont derrière moi, ce sont les chefs de demain, et le fait de pouvoir les sensibiliser à ces nouvelles technologies, c'est la responsabilité des écoles de Coëtquidan.
Alors on le comprend Julien, l'objectif pour les militaires est de moins s'exposer, mais leur présence, à plus ou moins longue distance d'ailleurs, reste indispensable sur un terrain d'opération.
Absolument, d'où cet exercice, une manœuvre grandeur nature au cœur de l'immense camp militaire.
Notamment pour bloquer cet axe que je considère comme très dangereux.
Je vous demande du sérieux ?
Oui, ok.
Là, il commence à prendre position.
En approche, un tout petit robot roulant inspecte une zone que l'armée doit investir.
Un ennemi décelé, carrefour de la Rangers par Nerva LG.
Il avance, se cache dans des herbes hautes. Les militaires, un peu en retrait, voient tout sur leur écran. Phase de renseignement moins dangereuse et parfois plus complète qu'avec des yeux humains. Deux ennemis fictifs sont repérés alors avec un autre robot qui ressemble à un petit char, c'est d'ailleurs le seul robot létal. L'armée décide de faire feu dans leur direction.
Intensification des feux de l'Optio, intensification des feux de l'Optio. Ok, pour le plastron, l'ennemi initial est détruit. L'ennemi initial est détruit.
Mais il y a un blessé dans la bataille.
Porté. Ok, Alpha, on va remonter avec le blessé et la mule.
Ok, une mule, de quoi s'agit-il? C'est une plateforme télécommandée qui peut transporter un blessé, même sous le feu, et le ramener à l'arrière, en zone sécurisée, sans mobiliser 8 militaires pour porter le brancard.
Ok, pour tous, fin de manip.
Évaluation à chaud du sous-lieutenant Kevin.
On a pu voir quand même un bénéfice au niveau de l'évacuation du blessé avec la mule, au niveau de la vitesse pour remonter le blessé.
Mais quand l'armée française va intégrer ses robots? Gérard Debois-Boissel, du centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan.
Ça sera progressif, c'est lié à deux choses. Ces petits bijoux technologiques ont encore quelques faiblesses. Il y a une dimension d'acceptation de doctrine par les militaires. C'est-à-dire que ces militaires doivent aussi se les approprier, comprendre comment les utiliser au mieux.
Des robots extrêmement chers, il y aura des priorités, des choix d'investissement dans l'un plutôt qu'un autre.
Julien Fautra à Coëtquidan. Alors on vient de l'entendre, les robots font leur apparition sur les terrains d'entraînement militaire, mais certaines technologies ont déjà été intégrées aux armées françaises et ce n'est qu'un début. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Les nouvelles technologies sont-elles en train de changer notre manière de faire la guerre et d'élaborer finalement notre politique de défense?
Mais absolument, parce que aujourd'hui, vous savez, les armées, ce ne sont plus simplement la terre, la mer et les airs. Il y a deux nouveaux milieux dans lesquels les militaires doivent évoluer. Eh bien, c'est le cyber, c'est-à-dire tout ce qui concerne la défense de nos réseaux numériques, informatiques face aux attaques de hackers.
Oui.
Et puis le spatial, la protection de nos intérêts au-delà de l'atmosphère. Vous savez, c'est la défense de nos satellites stratégiques. Mmh. Alors, ces deux nouveaux terrains ils prennent de plus en plus de place dans la stratégie de défense. Et on n'est plus dans l'affrontement territorial ou physique, comme ça a été le cas pendant des siècles, mais dans l'espionnage, la récupération de données. L'objectif reste le même, hein, c'est la souveraineté nationale et la défense, mais tout est fondé uniquement sur les nouvelles technologies.
Cela veut-il dire que les armées traditionnelles, je pense notamment à l'armée de terre, hein, ou la marine, ne sont pas concernées ?
Alors, on l'entendait dans le reportage de Julien Fautrin, les robots peuvent améliorer la sécurité des soldats sur le terrain en prenant des risques à leur place. Et on sait que les armées, justement, sont en train de définir quel robot pour quelle situation. Et cela va, oui, venir bouleverser la stratégie de combat sur le terrain, l'organisation même des armées. Ce travail se mène, vous l'entendiez, main dans la main avec les ingénieurs de l'industrie de l'armement.
On a déjà, Brice, hein, des exemples d'avancées technologiques majeures, hein.
Ah oui, d'ici à 5 à 10 ans, pas plus, la France aura dans l'espace ce qu'on appelle des satellites patrouilleurs qui seront chargés de protéger nos équipements de télécommunications. Et puis tout comme les drones, vous savez, ces avions sans pilote embarqués qui existent déjà, oui. Eh bien le même principe va entrer en action dans la marine nationale. Ce sont des bateaux sans marins à bord, quasi autonomes, capables de repérer les sous-marins. Mais attention, l'idée n'est pas de remplacer l'homme par la technologie. Il y a toujours des militaires derrière, ce sont eux qui commandent, eux qui prennent les décisions. Il ne faudrait pas tomber dans le fantasme technologique militaire.
Ce que vous nous dites, Brice, ce matin, c'est que la technologie aide, mais ne peut pas tout non plus, évidemment.
Et exactement. Et surtout, la technologie dans le monde militaire, elle est abordée de manière très pragmatique. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez peut-être de Frankie Zapata ? Il avait survolé sur sa planche volante, son flyboard. C'était le 14 juillet 2019, place de la Concorde à Paris, après le défilé militaire. Alors nous, spectateurs civils, en voyant ça, c'est vrai qu'on se dit c'est incroyable, c'est génial, on voit plein de possibilités. Les militaires, eux, ils voient pas tout à fait la même chose. Ils se posent deux questions. Ils se disent à quoi cela peut-il nous servir ? Et surtout, quelles sont les contraintes qui sont liées à une nouvelle technologie et le risque que cela fait courir aux militaires. Et par exemple, concernant ce flyboard, il a été jugé pour l'instant trop bruyant, donc pas assez discret pour certaines missions, et surtout pas assez autonome en carburant. Et toutes ces lourdeurs logistiques font que pour l'instant, il n'est pas du tout utilisé en opération, et ce ne sera pas le cas avant des années. Et donc à chaque nouvelle technologie, les militaires se posent la question du bénéfice-risque, parce qu'à chaque fois, évidemment, ce sont des vies qui sont en jeu.
C'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir projeté en quelque sorte dans le futur, qui est déjà largement en partie réalité. Merci Brice Dugénie.